Réplique, l'humanité de Vassili Grossman avec Virginie Bloch-Lenné et Olivier Rollin. Il y a une actualité, Vassili Grossman. Kalman Levy, en effet, a eu la magnifique idée de publier un volume inédit de souvenirs et correspondances et de rééditer, par la même occasion, les carnets de guerre pour une juste cause, vie et destin, tout passe. Ainsi sommes-nous amenés, par la grâce de ses paritions, à revenir sur une œuvre cardinale. Je le ferai aujourd'hui avec Virginie Bloch-Lenné, qui est critique littéraire au journal Libération, et avec l'écrivain Olivier Rollin. Je voudrais que l'on commence par vie et destin. Nous savons tout désormais, ou presque tout, sur la genèse et sur le sort en Union soviétique du chef-d'œuvre de Vassili Grossman. Alors, racontez-nous, comment ce roman est-il né? Et que lui est-il arrivé, Virginie Bloch-Lenné?
Alors, au début des années 50, paraît pour une juste cause, après plusieurs modifications demandées par le parti, plusieurs censures, et pour une juste cause, est le premier volet d'un diptyque, c'est ainsi que Vassili Grossman le conçoit, dont le second volet sera Vie et Destin. En 1953, Staline meurt, si bien que Vassili Grossman s'auto-censure moins, voire pas du tout. Et ce qu'il fait notamment dans Vie et Destin, qu'il écrit dans les années 50 jusqu'en 59, c'est qu'il met en miroir les deux régimes totalitaires, le national-socialisme et le socialisme soviétique. En 60, il a achevé Vie et Destin, il en envoie des extraits, des passages à une revue qui s'appelle La Gazette littéraire, et ainsi le roman commence à fuiter. Et il est assez confiant, il n'est pas totalement lucide, il est assez confiant sur la publication sans censure de ce chef-d'œuvre. Très vite, la rumeur circule que c'est un livre d'un anti-soviétisme flagrant, qui présente les soviétiques comme des êtres soumis à l'arbitraire, qui insiste beaucoup sur l'antisémitisme de Staline. Donc la rumeur circule, le KGB est mis au courant, est au courant et étudie le livre. Et le 5 février 1961, Grossman est chez lui, son fils adoptif est chez lui et débarquent 5 agents du KGB qui veulent saisir le livre. Ils saisissent le livre, les tapuscrits, les manuscrits, et ils emportent avec eux Vassili Grossman. Le fils adoptif de Vassili Grossman demande s'il reviendra. Ils disent oui, il revient dans une heure, ce qui est une réponse qui ne veut rien dire, parce qu'il peut très bien, ça veut très bien dire aussi qu'il ne reviendra jamais. Une heure et demie plus tard, Grossman revient sans son livre et il dit que le livre a été arrêté. Lors de l'interrogatoire, un procès-verbal a été fait de l'interrogatoire dans lequel il a été écrit qu'aucune plainte n'a été déposée et il a été dit à Vassili Grossman que son livre paraîtra peut-être 200 ans ou 300 ans plus tard.
Oui, alors justement, c'est dans son volume de souvenirs et correspondances, établi par Fiodor Goubert, le beau-fils de Vassili Grossman, il est dit ceci, le 14 février 1961, jour de la confiscation du roman de Vassili Grossman, Vie et Destin, est une date mémorable pour la littérature russe. Jusqu'alors, on arrêtait les écrivains, c'est la première fois que l'on arrête un roman. Olivier Rollin.
Oui, non seulement on arrête le roman, mais en outre on fait interdiction à Grossman de dire que son livre a été kidnappé. Bon, on lui dit de dire que il n'a pas fini, on sait pas quand il finira, etc. Bon, donc il n'a même pas le droit de se plaindre en privé de cela. Bon, il laisse, autant que je me souvienne, passer à peu près un an, et il écrit, c'est Khrouchtchev à l'époque, qui est secrétaire général du Parti communiste soviétique. Bon, il espère que Khrouchtchev, voilà, c'est le, dénonciation des crimes de Staline, etc. Il lui écrit, il n'a pas de réponse de Khrouchtchev. Il lui dit qu'il a simplement écrit la vérité dans son livre. Mais il est convoqué par Jdanov, donc qui est le
Suslov.
Suslov, Mikhail Suslov, oui, c'est ça. Qui lui dit qu'il n'y a en effet qu'il n'y a aucun espoir et que son livre est plus dangereux que encore plus dangereux pour l'Union soviétique que le docteur Jivago de Pasternak et que ben voilà qu'en effet il paraîtra peut-être dans 200 ans, 250 ans, voilà.
Mais alors la question que je me pose, c'est quand même justement que s'est-il passé entre « Pour une juste cause » C'est un diptyque, disait Virginie Bloch-Kenney, sur la bataille de Stalingrad, à laquelle, comme correspondant de guerre, Vassili Grossman a assisté, sur laquelle il a témoigné dans
L'Étoile Rouge.
Hein, oui, dans L'Étoile Rouge, exactement. Donc, il publie « Pour une juste cause », il a certaines difficultés, mais enfin, il arrive à le publier, mais d'un autre côté, le deuxième volume, Vie et Destin, change complètement de tonalité. En effet, il met en cause la réalité du soviétisme. Mais qu'est-il arrivé à Grossman? Je veux dire, pourquoi cette bifurcation, Olivier Rollin?
Ben, je pense, d'une part, Grossman fait partie de ces très nombreux citoyens soviétiques, je crois, qui pensaient que les extraordinaires souffrances, sacrifices du peuple ou des peuples de l'Union soviétique pendant la guerre entraînerait après la victoire entraînerait une libéralisation, enfin entraînerait une espèce de démocratie socialiste. Bon, or il n'a pu que constater que que ses espoirs étaient chimériques. Bon, et puis d'autre part, il y a aussi un des éléments de cette déception, c'est et de cette prise de conscience, c'est l'histoire du comité antifasciste juif, bon, qui enquête sur les crimes abominables commis par les nazis dans les territoires occupés, en Ukraine notamment, en Biélorussie, bon, et qui est interdits, dont les membres sont arrêtés, sont pour la plupart d'entre eux fusillés. Donc il prend conscience après-guerre, il commence à en prendre conscience pendant la guerre, mais ça devient aveuglant après la guerre, de l'antisémitisme de Staline et du régime stalinien.
Donc, oui, d'ailleurs, il est intéressant de lire, encore une fois, dans le venir Souvenir et Correspondance, un propos d'un agent du KGB qui dit ceci sur Vie et Destin. Le thème de la persécution des Juifs occupe une place particulière et très importante dans le roman en montrant l'antisémitisme des fascistes, leur haine raciale contre les Juifs. Grossman consacre également beaucoup d'attention aux descriptions de l'antisémitisme de notre pays, affirmant en substance que le régime soviétique ne l'a pas aboli, conclusion, dans son ensemble, Vie et Destin est une œuvre anti-soviétique qui calomnie les soviétiques et le système des relations dans la société soviétique. Donc ça, c'est quand même la grande raison du tournant, Virginie Bloch-Kenney.
C'est la grande raison du tournant, et la mort de sa mère est la grande raison, et oui, une grande raison de ce tournant. Sa mère était juive, née à Berditchev, où Grossman est né aussi. Et pendant la guerre, il écrit à son père. Sa mère est restée en Ukraine, à Berditchev, pendant la guerre. Il est très inquiet. Il aurait voulu la faire venir à Moscou, mais ce n'a pas été possible. Et quand il est correspondant du journal de l'armée L'Étoile Rouge, il écrit à son père qu'il passe ses journées avec une angoisse. Il est habité par l'angoisse du sort qui est réservé à sa mère. Il apprend en 44 que sa mère a été assassinée avec d'autres juifs en 41.
Avec 30 000, oui.
Voilà, avec 30 000 autres juifs massacrés sur un terrain vague. Et c'est un tournant important qu'il va cesser de considérer que le sort de l'humanité est un sort collectif pour commencer à regarder ce qui a arrive à chaque individu. Et ça, c'est assez lent. En 42, il est encore, il croit encore que tout le monde est pris dans un mouvement qui mènera au bien. Et c'est en 44 qu'il ouvre les yeux.
Commence à ouvrir les yeux. C'est vrai. Et ça lui prend du temps. Mais alors, en effet, l'une des scènes cruciales de Vie et Destin, c'est cet incroyable dialogue dans un camp nazi entre le commandant du camp et un vieux bolchevique détenu. Le commandant convoque ce vieux bolchevique et commence à parler avec lui. Et il lui dit ceci. Quand nous regardons, nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous regardons dans un miroir. Là réside la tragédie de notre époque. Se peut-il que vous ne vous reconnaissiez pas en nous, que vous ne poursuiviez pas votre volonté en nous? Le monde n'est-il pas pour nous, comme pour vous, volonté? Y a-t-il quelque chose qui puisse vous faire hésiter ou vous arrêter? Il y a une sorte d'ontologie commune, totalitaire, le monde est volonté. Et face à la volonté, il ne peut y avoir pas d'adversité, mais seulement une volonté mauvaise qu'il s'agit d'abolir. Et un peu plus loin, il a cette phrase qui traduit bien la prise de conscience progressive de Vassili Grossman. Aujourd'hui, vous êtes effrayés par notre haine du judaïsme, mais il se peut que demain, vous la repreniez à votre compte. Donc ça, il le dit aussi après tout ce qu'il a vécu, et notamment les mésaventures tragiques de ce comité antifasciste et du livre noir auquel il a collaboré, notamment avec Hilaire Renbourg. Olivier Rollin.
Oui, et par exemple, enfin, ce passage, cette chose dont on parlera sans doute, qui est cette description, enfin, des massacres, quand il énumère toutes les professions, les orfèvres, les cordonniers, etc., massacrés, etc. Bon, il dit voilà, il n'y a plus une voix juive, les juifs se taisent dans toute l'Ukraine, les grands-mères, etc. Enfin bon, c'est une espèce de litanie, bon, et cet article qui est magnifique, qui est une espèce de prière, bon, cet article est refusé par le Krasnaya Zvezda, enfin l'Étoile Rouge, le journal de l'armée auquel il collabore. Bon, donc oui, cette prise de conscience du fait que le régime soviétique ne veut pas voir la spécificité de l'antisémitisme mortel nazi, cette prise de conscience se fait dès la contre-offensive soviétique, dès que le territoire soviétique est libéré, quoi.
Oui, c'est la réalité de l'antisémitisme que le régime ne veut pas voir, et c'est aussi la particularité, la spécificité, l'individu. Vous faites référence, Olivier Rolland, à ce que vous avez dit très justement, cette litanie. C'est-à-dire que Grossman décrit en effet le massacre de Bertychev, auquel il n'a pas assisté, mais dont sa mère a été victime. Et ce passage est reproduit dans les carnets de guerre. Et ce qui est tout à fait étonnant, l'autre jour à la télévision, j'ai vu par hasard un documentaire silencieux, il n'y avait pas sans commentaire, sur intitulé « Babillard contexte ». C'était des images tournées par l'armée allemande de Babillard et de Lvov pendant la guerre. Pas de commentaire, mais quelquefois des légendes. Et une des légendes était la litanie de Grossman, dont je vais lire un extrait, un tout petit extrait, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est inouï. Il m'est venu à l'esprit que les Juifs se taisent dans toute l'Ukraine, massacrer les vieillards, les artisans, Les maîtres renommés pour leur savoir-faire, tailleurs, chapeliers, bottiers, étameurs, orfèvres, peintres en bâtiment, fourreurs, relieurs, massacrer les vieux ouvriers, portefaix, charpentiers, fabricants de poils, massacrer les amuseurs publics, les ébénistes, massacrer les porteurs d'eau, les meuniers, les boulangers, les cuisiniers, massacrer les médecins, praticiens, prothésistes dentaires, chirurgiens, gynécologues, massacrer les savants en bactériologie et en biochimie, les directeurs de cliniques universitaires, les professeurs d'histoire, d'algèbre, de trigonométrie, massacrer les professeurs à titre personnel, assistants, maîtres assistants et maîtres de conférences des chaires universitaires, massacrer les ingénieurs, les architectes, massacrer les agronomes et les conseillers en agriculture, massacrer les comptables, caissiers, commanditaires. Ça continue, et il dit, à un moment donné, c'est le meurtre d'une immense expérience professionnelle élaborée de générations en génération, par des milliers d'artisans et d'intellectuels, pleins d'esprit et de talent. Et c'est vraiment, c'est tout l'art de Grossmann qui est là, mais c'est aussi toute sa philosophie, toute sa vision du monde, il me semble, Virginie Boucquenet.
Oui, les énumérations, il y en a plusieurs, à la fois dans les carnets de guerre et dans Vie et Destin. Et elles peuvent avoir deux fonctions. Par exemple, en 1942, les énumérations, elles ont plutôt tendance à noyer l'individu dans le collectif, à l'aplatir, à l'effacer. C'est le cas lorsqu'il écrit à sa femme, après qu'il a appris que sa femme, le fils aîné de sa femme, est mort. Il avait 18 ans, il a fait un exercice militaire, un obus, par accident, a explosé. Elle a perdu son fils aîné, c'est Boris Pasternak qui était sur place, qui a creusé la tombe de Micha Goubert, cet enfant. Il l'apprend un mois plus tard, Vassili Grossmann, et il énumère les mères qu'il voit sur le front, les mères endeuillées. Et il lui dit, moi je vois des mères qui ont perdu des enfants, mais aussi des mères qui ont perdu des maris.
Donc des
femmes qui ont perdu des maris. Je vois des femmes qui ont perdu mari et enfants. Je vois des femmes dont les enfants en bas âge ont péri dans des bombardements. Et tous ces gens s'arment du courage, vivent, travaillent, attendent la victoire. Et plus tard, plus loin, il lui dit dans cette lettre, il y a tant de malheurs dans le monde, ma très proche. Il faut que tu aies toi aussi ce sentiment qui est le mien, qu'il est plus facile de supporter le malheur quand on le partage avec notre peuple tout entier. Et plus tard, les énumérations ont une autre fonction, elles montrent la diversité des individus.
Il y a cette très belle discussion, dans une ville de l'arrière, j'ai oublié si c'est Kouibichev ou je ne me souviens plus, enfin, où les civils sont repliés au moment où les Allemands approchent de Moscou. Et il y a cette très belle discussion sur Tchekhov.
Oui.
Où l'un des participants à cette discussion dit il n'y a jamais eu de démocratie en Russie, la seule étincelle de démocratie pendant les 1000 ans d'histoire russe, c'est Tchekhov. Et là, il y a une très longue énumération aussi où il dit voilà, il ne nous parle pas des Tatars ou des Ukrainiens ou des Russes, etc. Il nous parle d'un paysan, d'un ouvrier, d'un
industriel.
Tchekhov a introduit dans la conscience collective des médecins, des ingénieurs, des avocats, des instituteurs, des professeurs, des propriétaires terriens, des industriels, des boutiquiers, des gouvernants, des laquais, des étudiants, des fonctionnaires d'autograde, des marchands de bestiaux, des entremetteuses, des tracristins, des évêques, des paysans, des cordonniers, des modèles, des horticulteurs, des artistes peintres, etc., etc., etc. C'est moi qui le dis. Lui, il continue cette énumération.
Il y en a plus que dans Balzac,
dit-il. Et effectivement, c'est un passage incroyable où il répond à Lénine par Tchekhov, c'est-à-dire non pas par un autre écrivain politique, social-démocrate, non, par un écrivain, parce qu'il revient à la littérature de ne jamais vouloir noyer le particulier dans le général, et donc de ne jamais sacrifier les êtres humains à une idée abstraite de l'humanité, ce qui est effectivement le péché originel du communisme, selon Vassili Grossmann.
dans ce passage, oui, dans ce passage sur Tchekhov, le personnage qui fait l'éloge de Tchekhov dit que la voie choisie par Tchekhov, c'est la voie de la liberté. Et il l'oppose à deux autres voies, les décadents, qui sont pour l'individualisme, et la littérature réaliste socialiste, qui, elle, tend un miroir à l'État, et lui dit, tu es le plus beau. Voilà.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est dit dès la première page de Vie et Destin. J'en ai entrepris la relecture en préparant cette émission. Et, je veux dire, quatrième paragraphe, toute vie est inimitable, l'identité de deux êtres humains, de deux buissons d'églantine est impensable, la vie devient impossible quand on efface par la force les différences et les particularités. C'est la leçon majeure du livre est contenue dès les premières lignes du livre. Et ça, c'est quand même, c'est quand même prodigieux. Et
ouais, pardon, je voudrais rajouter quelque chose sur cette discussion, là, donc, sur Tchekhov. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que l'un des participants à cette discussion, c'est disons, l'un des personnages, le personnage principal du livre, qui est un physicien de très très haut niveau, donc, qui s'appelle Strum. Bon, qui est tout à fait le représentant de Grossman. Bon. Mais c'est un physicien, c'est pas un écrivain, c'est pas. Bon. Et après, il marche dans la rue, c'est la nuit, etc. Et un problème très grave, très compliqué de physique théorique sur lequel il s'acharnait depuis des mois ou des années. Tout d'un coup, hop, voilà, l'idée merveilleuse, l'idée juste, l'idée élégante pour résoudre ce problème surgit. C'est-à-dire que une idée scientifique, une idée physique naît à cause de l'atmosphère de liberté d'une discussion sur la littérature. Donc voilà, la littérature, ça ne sert pas qu'à la littérature, ça sert aussi à libérer les capacités de l'esprit, même dans des domaines scientifiques.
Oui. Alors c'est en effet l'une des leçons de tout passe, et Vassili Grossman poursuit cette grande méditation sur le malheur du siècle au travers d'un personnage sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un peu, Ikonnikov. Ikonnikov est un simple d'esprit détenu dans un camp nazi et qui finit par se suicider parce qu'il ne veut pas participer aux travaux de terrassement d'un chemin menant à la chambre à gaz. Et il dit ceci dès le début du livre, « Je ne crois pas au bien, je crois à la bonté. Le but de la collectivisation était le bien. » Et dans ses carnets, on découvre ceci, « Là où se situe l'aube du bien, les enfants et les vieillards périssent, le sang coule. J'ai pu voir en action la force implacable de l'idée du bien social qui est née dans notre société. Et à ce bien social, il oppose ce qu'il appelle la petite bonté. Une petite bonté qui a ceci de merveilleux, en quelque sorte, qu'elle est au ras des pâquerettes. Et le bien, c'est ce qui nous a fait le plus mal. Alors comment comprendre cette dialectique, ou plutôt ce refus de la dialectique? C'est un simple d'esprit, parce que précisément, il résiste au prestige, aux séductions de la dialectique, qui peut mettre le mal au service du bien, etc. etc. Olivier Rollin, que pensez de ce personnage d'Ikonnikov?
D'abord que c'est un personnage récurrent un peu dans la littérature russe, enfin dans une certaine littérature russe, puisqu'il y a par exemple dans Guerre et Paix, il y a ce personnage d'un paysan qui s'appelle, si je ne m'abuse, Platon Karataïev, et qui est aussi qui est partisan de cela, de la bonté sans comment dire, sans discours, sans sans espoir même, simplement une espèce d'inclination d'un être vivant vers un autre être vivant, ou même vers le vers la nature, vers, puisque Ikonnikov dit, voilà, il parle aussi de la bonté vis-à-vis d'un animal, de la bonté vis-à-vis des végétaux, etc. Bon, et c'est cette cette faiblesse, puisque la montée est d'une certaine manière est une faiblesse, c'est une façon de ne pas prendre le pouvoir sur autrui. Bon, donc cette faiblesse, c'est cela qui peut venir à bout de la force, de la violence, de la toute puissance de l'État. Bon, c'est une voilà, c'est une pensée qui naturellement répugne aux idolâtres de l'État, c'est-à-dire bien évidemment aux communistes, mais c'est-à-dire aussi les communistes, enfin dans ce camp, les détenus communistes et les gardes nazis se rencontrent au moins dans le mépris pour cette pensée. Voilà. Donc c'est ce qui c'est ce qui unifie, enfin les deux systèmes et d'une manière les idolâtres de l'État, les idolâtres de la puissance de l'État.
Oui, c'est ce qui les unifie, dites-vous, Olivier Lourdin, mais d'un autre côté, il y a une différence, c'est que le bien voulu par les communistes, c'est le bien de l'égalité entre tous les hommes, tout le contraire de la hiérarchie des races. Mais justement, ce bien est tellement beau qu'il en arrive à justifier toutes les horreurs. Et c'est ça que décrit Vassili Grossman, notamment dans Tout passe, il y a un personnage, le royaume mondial, le royaume futur lui paraissait infiniment beau, et pour en hâter l'avènement, il était prêt à user de la plus impitoyable violence. C'est cette dialectique-là qui à la fois distingue le communisme du nazisme, et qui en fait, au bout du compte, les amène à se rejoindre. Parce que voilà, le bien est tellement beau qu'on lui sacrifie tout. D'où, effectivement, la méfiance du simple d'esprit qui n'entre pas dans ses raisonnements, qui est aura des pâquerettes, Ikonnikov.
Ikonnikov, au début de Vie et Destin, il est dit que ce sont les troubles des années 30 qui ont dérangé sa raison. Et ce que les autres appellent ces gribouillages sur la petite bonté constituent 4 pages qui sont 4-5 pages d'Envie et Destin comme un traité d'éthique. Donc ce sont 4 pages merveilleuses sur ça pourrait être détaché et exister en soi, et il y a plusieurs passages comme ça d'Envie et Destin. Il y a aussi un passage sur l'amitié qui compte quelques pages et voilà, qui sont où Grossman s'arrête sur une valeur. Ça peut être aussi une valeur négative puisqu'il y a un passage sur la soumission.
Mmh. Oui, c'est une grande réflexion morale et même phénoménologique. Alors cette bonté, c'est quoi? Encore une énumération, Ikonnikov. C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé. La bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse. Etc. Oui, j'ai perdu le reste de mes notes. Voilà, c'est cette petite bonté-là qui éclaire le monde dans sa plus grande noirceur. Et c'est cela, finalement, la leçon incroyablement modeste que Vassili Grossman tire de ce siècle tragique. Il y a quelque chose, en effet, de modeste.
Très modeste, oui, qui se manifeste. Moi, une des choses que je trouve absolument bouleversante dans ce livre qui est bouleversant d'un début jusqu'à la fin, mais une chose très étonnante, c'est les dernières pages, les toutes dernières pages, bon, qui sont d'une modestie extraordinaire, puisque c'est une espèce de c'est une immense fresque quand même, Vie et Destin. Il y a des côtés très épiques, etc. Bon, il y a des quantités de personnages comme dans les romans, enfin, comme dans Tolstoï.
Bon, ah oui,
et puis
à un moment donné, on s'y perd.
Oui, bien sûr. Et puis la fin, c'est un couple anonyme. Et qui ne fait rien de particulier, qui se promène dans la forêt. La dernière phrase, voilà, il tenait un cabas à la main et je sais plus. Là, il regarde. Bon, et il regarde, et il voit les arbres, il voit la lumière jouer dans les arbres, il voit des bouvreuils, des oiseaux avec une gorge rouge sur une branche. Bon, mais en tout cas, que ce livre immense. Tumultueux, extraordinairement romanesque, se termine sur cette note très simple, très modeste, en effet. Je trouve ça magnifique.
Magnifique. En effet, alors, je poursuis l'énumération. La bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. C'est la bonté de ces gardiens de prison qui risquent leur propre liberté, transmettent des lettres détenues adressées aux femmes et aux mères. Voilà. C'est en effet une extrême modestie, toujours. Et d'un autre côté, on peut poursuivre encore l'analogie et la recherche de la différence entre communisme stalinien et nazisme, en passant, si j'ose dire, à Tout passe. Tout passe, c'est le dernier chef-d'œuvre de Vassili Grossman. Il l'a écrit alors qu'il pensait que Vie et Destin était perdu. Il était lui-même malade. Et c'est un magnifique roman méditatif et testamentaire. Et il y a un personnage, Anna Sergeyevna, qui a pris part dans son adolescence, aux horreurs, et notamment à la découlakisation, et en Ukraine. Et elle dit ceci, comme ils ont souffert ces gens, comme on les a traités, mais moi je disais, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des koulaks, et plus j'y pense, plus je me demande qui a inventé ce mot, les koulaks. Est-il possible que ce soit Lénine? Quelle damnation il encourt? Pour les tuer, il fallait déclarer les koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. Tout comme les Allemands disaient, les Juifs, ce ne sont pas des êtres humains. Donc c'est la même chose. Et en même temps, c'est pas la même chose, puisque les koulaks retardaient, aux yeux des communistes, l'avènement de l'humanité enfin égalitaire. Et au bout du compte, ça revient au même, puisque on déshumanise les koulaks avant de les exclure par la famine de l'humanité. Vous voulez dire un mot, Olivier Rollin? Sur Tout passe.
Oui, oh, mais Tout passe, c'est un livre en effet très, comment dire, beaucoup moins romanesque que Vie et Destin, beaucoup plus, c'est une espèce de très longue méditation. Bon, c'est là où c'est le point d'aboutissement de la pensée de Grossman, puisque il voit que ce despotisme qu'ils ont subi sous Staline et qu'ils continuent à subir après la mort de Staline, ce despotisme-là est en fait le despotisme qui a toujours été le régime de la Russie, bon, et que la Russie a toujours été esclave, et que pour changer quelque chose à la Russie, il faut la guérir de son âme d'esclave. Bon, donc c'est un livre une réflexion qui s'étend à toute l'histoire russe, à l'histoire du tsarisme, à l'histoire du communisme, etc. Et c'est un livre évidemment c'est une réflexion dont sans vouloir tomber dans les facilités, mais qui a des retentissements extrêmement actuels. Quoi, voilà.
Oui, bien sûr, mais on peut s'y arrêter quand même. Alors, en effet, la fin du livre, c'est une grande réflexion sur l'histoire de la Russie, où Vassili Grossman dit, en Occident, on a vécu sous un autre régime, celui de la connexion du progrès et de la liberté. En Russie, dès Pierre le Grand, on a choisi une autre voie, la connexion du progrès et du servage. Et malgré les convulsions, malgré les ruptures, c'est l'histoire russe dans son ensemble. L'obsession révolutionnaire de Lénine, écrit Grossman, sa foi fanatique en la vérité du marxisme, sa totale intolérance envers ceux qui pensaient autrement que lui, l'amenaient à favoriser le développement de cette Russie qu'il haïssait de toutes ses forces, de son âme fanatique. Il a voulu rompre, il a continué. Et Grossman dit non plus Staline, mais Lénine. Il remonte à Lénine pour, en effet, marquer cette tragique continuité. Et en quoi, selon vous, Olivier Rollin, cela éclaire-t-il notre présent? Parce qu'on peut, en effet, en dire un mot.
Oui, parce que ce qu'il met en relief, c'est la tradition donc millénaire de terreur qu'inspire l'État. Qu'inspire l'État tsariste, qu'inspire l'État enfin, le proto-État d'Ivan le Terrible, l'État de Pierre le Grand, qu'inspire l'État de Lénine, qu'inspire l'État de Staline, etc. C'est la caractéristique de la vie russe, c'est qu'il n'y a pas de citoyenneté au sens où nous l'entendons, enfin, où on l'entend en Occident, c'est que l'individu est une chose terrifiée par l'État. Voilà. Alors, ceci est évidemment, quand on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, enfin, à part quelques individus, etc., très, très héroïques et très remarquables, dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, de mouvement de résistance, etc., pour l'instant, aussi. Bon, mais je veux dire, ça n'a rien de, malheureusement, de surprenant. Je veux dire, il y a le prolongement à l'heure actuelle, bon, de cette terreur, de cette terreur qu'inspire l'État.
Oui, quelques mots sur Toupas. Toupas a été publié posthume, après la mort de Vassili Grossman. Et pour une juste cause, il y a destin forme un diptyque, il y a tellement d'écho dans Toupas au grand thème de vie et destin que ça pourrait être une trilogie. Il revient sur la bonté, sur la liberté. Sur la soumission, ce que vous disiez, Olivier Rollin, et tout ça, donc ce n'est plus une fresque, il y a beaucoup de passages théoriques, c'est un roman plus tendu que Vie et Destin, mais on y trouve beaucoup d'échos, et sur la soumission, il y a trois pages merveilleuses qui se terminent ainsi. L'État s'est fait patron. Il a fait passer l'élément national de la forme dans le contenu. Il en a fait l'essentiel, tandis qu'il reléguait l'élément socialiste dans la paille des mots, dans la phraséologie, dans la forme. La loi sacrée de la vie s'est formulée avec une évidence tragique. La liberté de l'homme est au-dessus de tout. Il n'existe aucun but au monde auquel on puisse sacrifier la liberté de l'homme. Ça, c'est la leçon de Toupas, et c'est le contraire.
Une des autres leçons de Toupas, et vraiment qui est conforme à ce que Kundera appellerait la sagesse du roman, c'est la mise en suspens du jugement. C'est-à-dire le communiste juge. Et il juge tout de suite, et il juge de manière implacable. Et il y a dans Toupas une typologie des Judas, c'est-à-dire des traîtres et dénonciateurs. Et le héros qui sort de 30 ans de camp a été lui-même dénoncé. Et il dit, voilà, vous vous apprêtez à juger. Et fait une typologie des Judas par ordre croissant de culpabilité. Et à chaque fois, il leur trouve des explications, des circonstances atténuantes. Ce n'est jamais pour justifier cette attitude, mais pour dire, voilà, suspendez votre jugement, car cette facilité de séparer le mal et le bien, c'est peut-être là que peut commencer l'horreur, il me semble, Olivier Rollin.
Oui, ce que je trouve très remarquable aussi, c'est que jamais, justement, il n'y a jamais une position morale surplombante aussi bien dans Vie et Destin que dans Toupas. La femme là, qui raconte les horreurs de la découlaquisation, elle a participé.
Voilà, c'est celle-là. Elle a participé. Bon, oui, bien sûr. Voilà.
Grossman lui-même, à certains moments, a été faible devant la terreur de l'État, et il a signé un texte condamnant les médecins juifs,
accusés du complot des blancs.
Voilà. Oui. Bon, il a eu cette faiblesse. Alors il l'a fait à la fois parce qu'il était terrifié, il l'a fait aussi parce qu'il se disait ainsi on sauvera la grande masse des juifs russes, etc., de la fureur de l'État. Bon, mais enfin c'est une lâcheté quand même. Voilà, c'est une lâcheté. Et il en est. C'est à partir de cette expérience de la lâcheté qu'il réfléchit, qu'il met en scène justement le courage, la résistance, etc. Mais ça n'est pas un courage ou une résistance, surplombante. Et dans le roman Vie et Destin, le personnage qu'il représente, voilà, lui aussi se comporte à un moment très courageusement, et puis à un autre moment, il cède à la terreur de l'État, quoi. Et c'est très important, ça, que la force vient d'une faiblesse assumée.
La faiblesse est toujours présente. Et j'ai aussi pensé à Vassili Grossman à la lumière des événements actuels, et notamment de la condamnation, vous avez dû voir cela, d'un dissident, pourrait-on dire, ami de Boris Nemtsov, qui a été tué devant la porte du Kremlin. Il avait lui-même dénoncé l'annexion de la Crimée par la Russie. Il s'appelle Vladimir Kara-Murza. Il a été condamné, donc c'est la Russie de Poutine, à 25 ans de colonie pénitentiaire à régime strict pour haute trahison. Et il a eu ces mots au terme du procès. Un jour viendra où les ténèbres qui recouvrent mon pays se dissiperont, quand le noir sera appelé noir et le blanc sera appelé blanc. Et là, j'ai pensé à Grossman et à d'ailleurs beaucoup d'écrivains qui reviennent à un certain nombre de valeurs élémentaires, et aussi face aux étourdissements de la dialectique, au bienfait de la tautologie. Le blanc sera appelé blanc, le noir sera appelé noir. Et c'est pas le cas dans la Russie post-communiste, et ces 25 ans de prison à régime sévère, ça rappelle forcément quelque chose. Virginie Lequenet.
Lorsque Boris Guber, un ami de Vassili Grossman, est arrêté en 1937 pour anti-soviétisme, et que ces deux... Donc, Vassili Grossman a épousé la femme de Boris Guber, il va devenir le père adoptif de ses deux fils. Boris Guber est condamné à 10 ans de prison, et il n'a pas le droit de correspondre avec les siens. Et ça, ça voulait dire que
qu'il serait. Ça voulait dire, mais on l'a su que bien longtemps après.
Voilà, on l'a su. Ils ont su plus tard qu'il avait été arrêté.
Ça voulait dire la mort.
Voilà, ça voulait dire la mort. Et ça, dans Vie et Destin, c'est une formulation qui, donc, les mots ne veulent pas dire la vérité, que Grossman reprend pour parler d'un prisonnier lorsque un personnage de Vie et Destin va prendre des nouvelles de son mari qui a été fait prisonnier.
Olivier Rollin, vous avez quelque chose, un commentaire à faire de cette condamnation, de ce qu'elle signifie, de ce qu'elle évoque en vous, ces 25 ans de prison
elle évoque en effet le l'ubris, enfin, de la violence, de la terreur, à quoi cède le régime de Poutine. Et il y a un autre texte tout à fait remarquable qui a été publié en tribune là dans Le Monde, venant d'un opposant russe qui s'appelle Ilya Yashin, je crois, qui disait, voilà, qui lui a été condamné condamné en appel à 8 ans de prison, simplement pour des phrases, enfin des
oui. Bon,
et qui dit peut-être que je sortirai de prison pour y laisser rentrer Poutine, enfin que Poutine me succédera dans la prison. Bon, c'est un texte extrêmement fort qui a été publié il y a quelques jours.
Il y a aussi quelque chose que sur quoi on aimerait avoir le commentaire de Vassili Grossman, c'est la propagande actuelle du régime russe. Remarquez que on ne parlait pas, même au temps de Grossman, de nazisme. On parlait toujours de fascisme. Mmh. Mais Grossman aussi. Mmh. C'est le fasciste, c'est le régime fasciste, c'est l'horreur fasciste. Aujourd'hui, Poutine parle de nazisme. Le nazisme est présent, mais c'est quoi? C'est le nazisme ukrainien. C'est-à-dire qu'on en vient, dans ce régime, à se référer à l'antisémitisme qui a évidemment existé en Ukraine et qui a sévi à l'abri du régime de l'occupation allemande. Et Grossman était le premier à le savoir. On en vient à se référer à ce nazisme-là pour justifier l'opération militaire spéciale et la volonté même de liquider l'Ukraine. C'est quand même un artifice de propagande tout à fait extraordinaire. La Russie post-communiste découvre le nazisme, mais pour stigmatiser d'abord l'Ukraine, au moment même où l'Ukraine est envahie, et d'ailleurs l'Occident. Et on voit même apparaître ce syndagme absolument ahurissant à propos de l'Occident, de nazisme LGBT. Voilà, c'est un synode. Que veut dire cette propagande? Et en quoi Grossman peut nous éclairer sur ce type de discours, Olivier Rollin? C'est dur, hein, comme question.
Oui, je ne sais.
C'est pas. Mais c'est quoi? Tout d'un coup, ils découvrent le nazisme et c'est les Ukrainiens qui en font les frais, quoi.
Oui, enfin, non, pardon.
Virginie Bloch-Lédé?
Non.
Personne ne sait répondre à ma question. Non, c'est la première fois que ça arrive en réplique.
Il faut une première fois.
Non, mais parce que je suis stupéfait par ce type de discours, cet extraordinaire cynisme idéologique de la propagande russe qui fait feu de tout bois et qui cherche d'ailleurs à mobiliser des sympathies en invoquant la mémoire de l'antisémitisme. C'est-à-dire pendant toute une période, l'antisémitisme était dissimulé parce qu'il ne fallait pas faire un sort particulier à ce que les Juifs avaient pu subir pendant la guerre. Et aujourd'hui, l'antisémitisme ressurgit pour légitimer l'invasion russe de l'Ukraine. Mais vous êtes tellement d'accord avec moi,
oui,
vous n'avez rien à répondre.
C'est l'usage de la langue par un dictateur. Enfin, c'est la déformation. Oui.
Et là, on en revient à ces propos de l'homme condamné, un pays où le noir devient un noir,
oui,
et le blanc
de la
tautologie.
Oui. Voilà.
C'est la puissance de la tautologie. Alors, pour finir, je vais vous poser la grande question, la question ultime, la question conclusive. Pourquoi, selon vous, ceux qui ne l'ont toujours pas découvert doivent lire absolument Vassili Grossman, Olivier Rollin?
Alors, plusieurs volets dans la réponse. D'une part parce que l'essentiel, le plus tragique, le plus de l'histoire du XXe siècle est mise en scène dans Vie et Destin, c'est-à-dire les deux grandes barbaries, les deux grands ogres qu'ont été le nazisme et le stalinisme, et la guerre mondiale. D'autre part, parce que c'est un livre qui est à la fois énorme, enfin d'une puissance extraordinaire, qui raconte la bataille de Stalingrad d'une façon vraiment homérique, si je puis dire. Bon, mais d'un autre côté, c'est un livre qui avance à pas de colombe. C'est un livre extraordinairement délicat. C'est un livre d'une finesse inouïe pour décrire par exemple les hésitations, les petites lâchetés, etc. Enfin bon, de l'individu face à l'État. Bon, donc il y a à la fois ce qu'il y a de plus grand dans l'épopée et ce qu'il y a de plus délicat, de plus merveilleux dans le roman. Bon.
Oui.
C'est d'ailleurs dans l'art du roman, je veux dire. Bon.
C'est d'ailleurs un livre épique, comme vous le dites, et tragique. C'est-à-dire que d'un côté, il montre le caractère héroïque de la victoire de Stalingrad, et de l'autre côté, il révèle l'horreur du communisme. Les deux choses sont dites en même temps.
Bien sûr, oui, absolument. Oui.
Alors,
oui, pour les...
Alors, donnez-moi les raisons.
Pour les mêmes raisons qu'Olivier Rollin, mais il avance à pas feutrés. Il ne s'auto-censure pas, donc c'est stupéfiant. La mise en miroir des deux totalitarismes est étonnante. Et il y a beaucoup de petits récits d'envie et destin, des scènes. C'est un peintre de personnages formidables. Et puis, une autre... On n'a pas parlé de la mère de Vassili Grossman, oui. Mais voilà, une autre raison, c'est la lettre qu'écrit la mère du personnage principal, Victor Strum, à son fils pour lui dire de continuer de vivre, puisqu'elle va mourir. Et cette lettre fait écho à deux lettres que Vassili Grossman a écrites à sa mère, qui sont dans le volume des souvenirs publiés par Kalman Levy, deux lettres qu'il a écrites alors que sa mère était morte.
Oui.
Et il lui écrit comme si elle était là. Une fois, 9 ans après sa mort, 20 ans, puis 20 ans après sa mort, et ce sont des lettres bouleversantes.
Et d'ailleurs, il avait lu, à cet égard, lui, une espèce de remords. Sa mère était restée à Berditchev. Il aurait pu la faire venir à Moscou, et il ne l'a pas fait. Et il y a une transposition d'envie et destin, et c'est sans doute à cause de sa femme.
Oui. Oui, mais elle voulait rester pour être avec sa nièce. Pas seulement sa femme.
Ah, voilà. C'est vrai.
Pour continuer à répondre à votre question, il faut lire Vie et Destin parce que c'est extraordinairement romanesque, c'est-à-dire que c'est passionnant, tout simplement, quoi. Dire, bon, et aussi parce que c'est un livre de philosophie politique, enfin de réflexion sur l'État, sur la violence, sur la soumission, etc.
Merci beaucoup, merci Olivier Rollin, merci Virginie Bloch-Néné. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Juliette Mouet, la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Je rappelle que nous avons parlé des œuvres de Vassili Grossman, publiées chez Kalman Levy, donc Vie et Destin, Tout passe, Les carnets de guerre et Les souvenirs et correspondances.